L'atelier des médias,
Chantal Laureau.
Bonjour, bienvenue dans l'atelier des médias. C'est un rapport embarrassant pour la France et 11 pays de l'Union européenne qu'Amnesty International a publié mardi. L'ONG accuse ces États de continuer à vendre à l'Égypte des armes utilisées pour réprimer dans le sang toute contestation. L'Égypte n'est pas le seul client fort peu recommandable de l'industrie française de l'armement. Il y a également l'Arabie Saoudite. Et dans les plus hautes sphères de l'État, le sujet est tabou. La journaliste Anne Poiret a néanmoins enquêté et en a tiré un documentaire édifiant, Mon pays fabrique des armes. Anne Poiret sera notre invitée dans une vingtaine de minutes. Faut-il quitter les réseaux sociaux ou plutôt asociaux, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram? C'est la question que pose notre confrère de France Info, Jérôme Colombin, dans un livre foisonnant. On en parle avec lui dans un instant. Mais d'abord, un détour par Pékin où l'on retrouve notre correspondant Stéphane Lagarde. Bonjour Stéphane.
Bonjour Chantal.
Le gouvernement chinois s'est longtemps méfié du web avant de se rendre compte qu'il pouvait en faire un outil idéal pour contrôler les moindres faits et gestes de ses citoyens par le biais d'applications pour smartphone. On appelle cela le crédit social. Tout le monde est noté, y compris vous Stéphane.
Oui, pour l'instant, enfin en tout cas j'espère ne pas avoir perdu de points Chantal, mais j'en ai pas gagné non plus. Du coup j'ai dû payer par exemple une caution pour m'abonner au système de vélos partagés. Attention, si je me gare n'importe où ou si je dégrade les vélos que j'emprunte, eh bien je risque d'être mal noté. Donc ce projet de notation des citoyens a été lancé il y a 4 ans par le gouvernement chinois. Il a commencé à être mis en place cette année, c'est pour ça qu'on en parle, notamment dans les transports publics en Chine. Je viens d'aller faire un tour sur le site 12366 par exemple. Il y a aujourd'hui 3 530 000 personnes qui ne peuvent plus acheter de billets de train en Chine sur les près de 10 millions qui ont perdu des points en refusant de, par exemple, céder leur siège aux personnes qui avaient réservé dans le TGV ou en abandonnant des déchets sur leur place avant de quitter le train. On a la même chose pour les avions. Plus de 9 millions de passagers chinois aujourd'hui sont cloués au sol, interdits de prendre les airs pour s'être mal comportés. Une notation établie, Chantal, grâce au big data, évidemment, et aux technologies de surveillance du citoyen, domaine dans lequel la Chine est très en pointe.
Et qui recense ces données, Stéphane, le privé ou le public ?
Eh bien les deux, forcément, ce sont d'abord les entreprises privées, hein. C'est vrai qu'ils ont mis en place le système. On est désormais noté pour tout en Chine, vu qu'on peut tout payer directement avec son téléphone portable. Tout est enregistré. J'ai par exemple le mari d'une amie qui achète souvent sur le site de vente en ligne Taobao. Il achète à crédit parfois et comme il rembourse bien, enfin il rembourse tous les mois, eh bien il est bien noté sur ce site, ce monsieur, ce qui lui permet notamment, par exemple encore, de ne pas faire d'avance lorsqu'il réserve un hôtel à l'étranger. Alors évidemment, le crédit social, c'est aussi l'État, hein, ce confrère chinois, par exemple, qui dit ne plus pouvoir faire d'emprunt à la banque pour acheter un appartement, car ses articles à ce journaliste auraient déplu au gouvernement, donc mauvaise note. En fait, cette technologie, Chantal, enfin pour moi, vient ici renforcer un système qu'on connaît depuis longtemps en Chine, où dans les quartiers, dans les entreprises, dans ce qu'on appelle les unités de travail, eh bien, on est surveillé ou en tout cas noté par des volontaires qui rapportent tout comportement jugé anormal à la cellule du Parti communiste.
Merci beaucoup Stéphane, à bientôt.
À bientôt Chantal.
Et si le sujet vous intéresse, je vous recommande une enquête passionnante sur le crédit social en Chine. Bienvenue dans l'enfer du social ranking. Enquête signée Mara Wistendahl, parue en juin dans la revue du Crieur.
RFI.
Jérôme Colombin, bonjour.
Bonjour Chantal.
Vous êtes journaliste à France Info, vous y animez chaque jour la chronique Nouveau Monde. Vous êtes aussi consultant sur 01 Net TV et vous publiez « Faut-il quitter Facebook, Twitter, YouTube et Instagram ?» édité sur Amazon. Comment est-on passé de ce que vous appelez le jardin d'Éden numérique à ce qui ressemble souvent, aujourd'hui en tout cas, à un café du commerce puissance N ? N-H-A-I-N-E.
Ah oui, c'est exactement ça, la N. C'est un véritable déversoir aujourd'hui, Facebook, mais aussi Twitter, les réseaux sociaux d'une manière générale. Alors qu'au début, en effet, je me souviens des premières années, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 8-10 ans, eh bien c'était une sorte de jardin d'Éden parce que, en fait, c'est tout simple, mécaniquement, il y avait moins de monde. Et c'était réservé à... Alors Facebook, c'était d'abord les universitaires, enfin même les étudiants des universités américaines, puis ça s'est élargi. Twitter, c'était très branché, homme de médias, journaliste, homme politique, etc. Et tout le monde se trouvait qu'on était trop à l'étroit, pourtant, en disant « bon, il faut venir, venez, c'est génial, etc. » Et puis alors, le grand public, entre guillemets, est venu, et mécaniquement, ça s'est un peu compliqué, et c'est vrai qu'on est aujourd'hui face à des... parfois des choses pas très propres.
Donc ça veut dire que, et c'est un paradoxe, que la démocratisation du numérique a abouti maintenant à ce déversoir de haine, cet espace où chacun se défoule bien caché derrière son clavier d'ordinateur ou son clavier de portable.
C'est ce que certains sociologues appellent la tyrannie des agissants, c'est-à-dire qu'il n'y en a que quelques-uns qui sèment la pagaille, mais forcément c'est ceux qui font le plus de bruit, c'est ceux qu'on entend le plus, c'est ceux dont les tweets rageux, haineux vont avoir le plus de répercussions, et donc on a l'impression que c'est une majorité. C'est certainement pas le cas. Je pense que ça reste une minorité. C'est perturbateur d'une certaine manière. C'est comme dans une classe où vous avez un élève qui met le bazar et c'est toute la classe qui est perturbée. Et c'est un peu ça aujourd'hui, les réseaux sociaux. Alors il y a des tas de raisons à ça, en fait.
Et vous dites que les fausses nouvelles se propagent beaucoup plus vite que les véritables nouvelles.
Alors ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont effectivement des chercheurs qui ont abouti à cette conclusion. Pourquoi ? Parce que les fausses nouvelles, ça fait appel à l'étonnement, ça fait appel à l'indignation, ça fait appel à la colère, ou au contraire, ça entre en résonance avec des choses que l'on pense. Et on s'occupe pas de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. On fait suivre parce que c'est émotionnel, en fait. Et du coup, oui, les fausses nouvelles avec des titres extraordinaires. Alors, je cite dans le livre, je crois qu'en 2016, la nouvelle la plus partagée, c'était un truc absurde, un article idiot dont le titre était « Elle défèque sur le bureau de son patron avant de prendre la porte » ou quelque chose comme ça. Le simple titre est spectaculaire et donc conduit à ce qu'on fasse passer cette nouvelle et ça fait boule de neige. Et on le voit aussi avec, par exemple, Donald Trump. On sait qu'aujourd'hui, chaque fois qu'il met le hashtag fake news ou qu'il attaque les médias américains qui, on le sait, les traitent de fake news, eh bien ça marche. C'est violent et donc c'est repris par énormément de gens, ses supporters, mais pas seulement. Il y a aussi ceux qui s'indignent et c'est comme ça que ça fait beaucoup de bruit.
Alors quel est le profil ? Est-ce qu'il y a plusieurs profils de « haters », entre guillemets, ces gens qui se défoulent, qui déversent leur haine sur Internet ?
Alors oui, moi je me suis amusé effectivement dans mon livre à essayer de dresser quelques profils, quelques portraits robots. Il y a le plus connu, c'est le troll, parce que c'est le plus ancien. Ça existe depuis les débuts d'Internet, un troll. Qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui va agiter, qui va mettre de l'huile sur le feu en postant des messages qui forcément vont faire réagir. Je ne sais pas, moi je suis dans le secteur de l'high-tech. Si vous avez un forum qui parle d'iPhone et vous allez là-dedans pour traiter tous les amateurs et les fans d'Apple de moutons, et d'imbéciles, forcément vous allez mettre le feu aux poudres. Le troll ne pense pas forcément ce qu'il dit, mais il aime et il existe en faisant réagir les autres et en faisant s'indigner les autres. Et puis après, vous avez toute une panoplie, vous avez le frustré, vous avez le rageux, vous avez également l'activiste, parce que les réseaux sociaux sont pris d'assaut par les activistes de tout poil qui veulent faire passer des thèses de toutes sortes, on le sait. Dans la vraie vie, ils sont minoritaires, sur les réseaux sociaux, ils peuvent très vite se faire beaucoup de bruit. Et puis il y en a un aussi qui est intéressant, c'est le portrait de robot, le profil du complotiste, hein. On sait que les réseaux sociaux sont le réservoir de toutes les thèses complotistes de la Terre.
Il y a aussi les fermes à trolls. Là, on en trouve en Russie et en Macédoine. Et là, ce sont des... Est-ce qu'on peut dire que ce sont les États qui sont à la manœuvre ?
Alors, on ne peut pas le dire, non, officiellement, parce qu'ils s'en défendent. Mais il y a de fortes présomptions. On pense que, effectivement, cette ferme de trolls dont vous parlez, qui a été créée par l'ancien chauffeur ou coiffeur de Boris Eltsine, est très très proche du pouvoir russe. Et elle a été très active pendant la campagne pour la présidentielle américaine en 2016, en inondant les réseaux sociaux avec des contenus qui incitaient les gens à voter pour Donald Trump. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont peut-être fait ça pour des raisons politiques, pour une bonne part. Mais aujourd'hui, Donald Trump est président et ces fermes existent toujours. Mais qu'est-ce qu'elles font ? Elles ont une partie comme ça de tentatives de déstabilisation de différents pays. Mais elles font ça pour le business, pour le fric, parce que ça rapporte. Parce que des fausses nouvelles, quand vous les publiez et que ça fait du trafic, ça envoie ensuite sur des sites où il y a de la publicité, où ça génère... Il y a tout un modèle économique derrière ça. Mais il y a également, de plus en plus, des motivations politiques et des tentatives de déstabilisation des États.
Et alors, c'est bien pratique pour les haters, comme on les appelle, de déverser leur haine incognito, d'où la question de l'anonymat. Est-ce que pour réguler les réseaux sociaux, pour éviter tous ces dérapages, est-ce qu'il faut lever l'anonymat ?
Ça, c'est la première réponse qu'on apporte en général, et ça paraît évident, souvent vu de la fenêtre des Français installés dans une démocratie assez confortable. Et puis avec une vision assez centralisatrice, c'est très simple, il suffit que tout le monde soit à visage découvert. Moi, je pense que c'est, je suis pas le seul à le penser, mais je pense que c'est pas une bonne idée, parce que effectivement, il faut garder un anonymat. L'anonymat, c'est la protection de l'individu dans de nombreuses situations. Moi, personnellement, je suis non anonyme sur les réseaux sociaux. C'est un choix, mais je ne m'insurge pas forcément contre des personnes qui vont être anonymes pour des raisons diverses et variées, parce que elles peuvent ainsi exprimer des idées qui sont contraires aux intérêts de l'entreprise dans laquelle elles travaillent. Je ne parle pas de faire de la démolition, mais simplement exprimer des points de vue un petit peu différents. Il faut que ça reste une zone de débat, hein, ces réseaux sociaux. Et dans certains pays, eh bien, c'est l'anonymat qui va protéger les lanceurs d'alerte, des dissidents politiques, toutes sortes de personnes qui ne bénéficient peut-être pas, encore une fois, de la sécurité qu'on peut avoir chez nous.
Alors vous suggérez de créer une identité numérique. Comment ça fonctionnerait ?
Alors c'est assez compliqué, mais effectivement, l'idée ce serait d'avoir une identité, entre guillemets, qui permette de nous retrouver, de nous tracer, de nous punir quand on fait des bêtises sur les réseaux sociaux, de nous enlever des points, par exemple, comme le permis de conduire, sans qu'on puisse forcément nous identifier. Donc il ne faut pas confier ça à l'État, parce que l'État, comme pour le permis de conduire, eh bien, peut nous punir, mais peut aussi venir nous chercher chez nous. On peut imaginer quelque chose qui soit un petit peu hors sol, comme de plus en plus on le voit avec la monnaie aujourd'hui, c'est-à-dire avec les crypto-monnaies, avec la blockchain, qui permet d'authentifier, de tracer. Alors, j'ai pas toutes les réponses à ça parce que c'est une problématique technique très très compliquée.
Oui, parce qu'il faut que ce soit transfrontière.
Il faut que ce soit transfrontière, mais ça c'est pas un problème sur Internet, c'est totalement transfrontière. Mais l'idée ce serait que par exemple, vous postez trop de messages pernicieux, je veux dire, sur Twitter, sur Facebook. Il faudrait qu'on puisse vous mettre le holà, éventuellement vous bloquer d'une manière plus ou moins définitive, sans forcément s'attaquer à votre individualité. Mais en fait, c'est votre identité virtuelle, votre identité numérique qui, elle, serait bloquée. Alors, c'est pas évident à faire, mais encore une fois, il y a beaucoup de travaux qui vont dans ce sens-là, et notamment avec la blockchain, pour arriver à des choses qui ressembleraient à ça.
Mais qui serait le gendarme alors ?
Alors évidemment, vous avez raison de poser la question, c'est ça la vraie question. On aurait tendance à dire surtout pas les réseaux sociaux parce que non, ce sont des entreprises commerciales, ils ont déjà beaucoup de choses, ils savent déjà beaucoup de choses sur nous, ils vont pas en plus nous contrôler. Mais moi je suis désolé, je pense que si, ce sont les réseaux sociaux en toute logique. Parce qu'il faut pas oublier que Facebook c'est pas un service public, Twitter c'est pas un service public. C'est vrai qu'ils ont aujourd'hui des positions dominantes qui devraient les amener à plus de responsabilités et aussi à plus de contrôle. Mais malgré tout, ce sont eux qui sont les mieux placés pour éventuellement taper sur... C'est ce qu'ils font. Quand ils modèrent déjà des contenus, ils suppriment des millions de contenus tous les jours. Twitter ne supprime pas, ne filtre pas, ne censure pas les tweets. Mais si ça va trop loin, si ça enfreint la loi, ils suppriment carrément le compte. Donc finalement, c'est eux qui doivent faire la police.
Mais le problème, c'est que le concept de liberté d'expression est différent selon qu'on se trouve aux États-Unis ou en France.
Absolument. Mais les plateformes sont confrontées, les plateformes donc de réseaux sociaux sont confrontées à cette réalité. Et je pense que c'est presque elles qui connaissent mieux le problème que quiconque aujourd'hui. Parce que quand vous opérez un réseau comme Facebook, qui touche donc 2 milliards, 300 millions de personnes aujourd'hui, dans des centaines de pays... Et ils sont obligés de se conformer à chaque pays, à la législation de chaque pays. On peut leur reprocher parfois d'être guidés par leur idéologie américaine, etc. Bon, mais dans les faits, ils vont bien souvent être le plus... C'est eux qui souvent sont le plus en phase avec les pays en question. Ça se fait pas toujours de manière simple. Mais malgré tout, je pense que ce sont leurs plateformes d'une certaine manière. Donc c'est aussi à eux de faire le ménage et de faire la police.
Jérôme Colombin, la presse est censée être le quatrième pouvoir. Est-ce que les réseaux sociaux sont devenus le cinquième pouvoir ?
Alors oui et non, parce que les réseaux sociaux, c'est nous. La presse, ce sont des rédactions, ce sont des professionnels, ce sont des entreprises. Il y a des directions qui sont choisies par des équipes, etc. Les réseaux sociaux, c'est ce qu'on a appelé à un moment le web 2.0. C'est du collaboratif, c'est du contributif, ce sont des plateformes. On entre et on sort. Donc, c'est une sorte de cinquième pouvoir, mais indirect, parce que quelles sont les règles qui régissent ce cinquième pouvoir? On ne le sait pas exactement.
Parce qu'un aspect du problème, c'est que sur Internet, toute parole se vaut, quitte à ce que les fameuses fake news se propagent.
Alors ça, c'est le gros problème des fake news. C'est ce que dit Umberto Eco. Il dit le problème des réseaux sociaux, c'est que ça a donné une visibilité à des imbéciles qui, avant, débitaient des bêtises dans les bistrots en levant le...
On en revient au café du commerce.
Oui, exactement, le café du commerce. Et aujourd'hui, ils ont une audience mondiale. Mais le fait est que cette réalité, elle existe aujourd'hui. Donc il faut faire avec. Et les réseaux sociaux, alors attention, il ne faut pas se méprendre sur mon discours. J'ai tendance un petit peu, parfois on peut croire que je défends entre guillemets les méchants GAFAM. Ce n'est pas ça, j'essaye de les comprendre et je pense qu'il faut absolument les encadrer et les États doivent renforcer la surveillance et les réglementations pour les canaliser. Mais il ne faut pas avoir une vision simpliste, c'est une problématique très très compliquée.
Alors vous soulignez que les médias sociaux offrent le seul vrai luxe qui soit, le choix des informations et le panachage des infos. Alors si on n'aime pas la politique ou le sport, on n'est pas obligé d'avaler de l'info politique ou sportive. Donc ça veut dire que les médias sociaux ont un net avantage sur la radio ou la télé traditionnelle.
En tout cas, c'est une alternative dont les utilisateurs se réjouissent. Et on voit bien aujourd'hui, d'ailleurs, les relations entre les médias traditionnels et les médias sociaux. C'est une espèce de « je t'aime moi non plus ». On a besoin, tous les médias aujourd'hui ont besoin de Facebook, de Twitter, pour donner plus de visibilité à leur contenu, parce que les utilisateurs sont plus dans les kiosques à journaux, ils sont sur Facebook et sur Twitter. Mais forcément, c'est une relation un peu compliquée. Et en plus, il y a des relations commerciales, c'est-à-dire que, on le sait aujourd'hui, Facebook, même sous prétexte et sous couvert de soutenir la presse qu'elle met un petit peu en danger, finance des contenus. Mais en finançant des contenus, elle en vient à commander des contenus, à imposer ses propres règles. Résultat des courses, on a l'impression que les médias, parfois, travaillent pour Facebook, parce qu'il se plie totalement aux règles de Facebook, aux règles, aux algorithmes de Facebook, aux contraintes de Facebook ou de Twitter, d'ailleurs. Donc c'est... On a besoin vraiment les uns des autres, et pour l'instant, on n'a pas encore trouvé un équilibre stable.
Facebook, le plus grand réseau social au monde, est au centre d'une violente polémique. Accusé de ne pas avoir suffisamment protégé les données personnelles de ses utilisateurs, il est depuis plusieurs jours sous le feu des critiques. Un mouvement appelant carrément à le supprimer a même été lancé, relayé par de nombreuses personnalités à travers le monde.
Alors en mars 2018 a éclaté le scandale Facebook grâce à un lanceur d'alerte. On apprend qu'une officine britannique de profilage Cambridge Analytica aurait récupéré les données de millions de membres du réseau social américain pour tenter de favoriser l'élection de Donald Trump. Mark Zuckerberg sera contraint de s'expliquer devant le Congrès américain. Pourquoi cette affaire a-t-elle été un tournant dans l'histoire de Facebook et des réseaux sociaux ?
Ça a été un tournant Cambridge Analytica. D'abord, je pense en interne pour Facebook, ça a été une grosse claque. On se souvient du témoignage de Mark Zuckerberg devant le Congrès américain.
Pas très sûr de lui.
Pas très sûr de lui. Alors, des congressmen aussi qui, franchement, ne connaissaient pas grand-chose au problème. Les questions étaient souvent... Je pense que c'est ça aussi qui l'a déstabilisé. C'est de réaliser à quel point les gens ne comprenaient pas comment fonctionnait Facebook, ce que c'était, quels étaient les tenants, les aboutissants. Et donc, ça a forcé Facebook à faire aujourd'hui un travail de transparence, plus de transparence, à plus s'expliquer. Faut pas oublier que Facebook, c'est au départ une bande de geeks, hein, d'informaticiens, c'est pas des gens ultra communicants au départ, même si, bien sûr, ils se sont entourés. Et je pense que ça a été un tournant aussi par rapport au public, parce qu'on en a énormément parlé de cette affaire, et on a dit aux gens, vous savez, tout ce que vous racontez à Facebook, vous pensiez que c'était discrètement stocké quelque part, eh bien, on peut s'en emparer, on peut s'en servir, on peut presque s'en servir d'une arme contre vous, vous manipuler. Donc il y a aujourd'hui une grosse... Le problème, c'est que là, on est dans la période de rejet. Il y a une espèce d'effet repoussoir. Il y a beaucoup de gens qui ont dit « je vais me désabonner de Facebook ». Entre parenthèses, très peu de gens l'ont fait.
Oui, c'est ça. Il y a eu un hashtag « delete Facebook ».
Voilà. Mais en réalité...
Il n'a pas été beaucoup suivi.
Il semble qu'il n'ait pas été beaucoup suivi. Il y a moins de monde sur Facebook. Enfin, il y a un peu moins de monde sur Facebook, mais pour d'autres raisons. C'est-à-dire que Facebook vieillit, les utilisateurs aussi. Et Facebook devient un réseau social de vieux. Et les jeunes sont ailleurs. Ils sont sur Instagram, ils sont sur Snapchat, etc.
Et quid des réseaux alternatifs ? Est-ce qu'ils peuvent faire de la concurrence aux plateformes, j'allais dire, presque traditionnelles ?
Faire de la concurrence, très sincèrement, je ne pense pas, mais c'est très bien que ça existe, parce que c'est toujours bien qu'il y existe des alternatives, parce que c'est un petit peu le caillou dans la chaussure qui empêche de faire n'importe quoi, et qui, mais on peut, il y a quelques réseaux alternatifs, mais le principe d'un réseau social, c'est de mettre les gens en relation. On va sur un réseau social parce qu'il y a du monde. Si on vous présente un réseau plein de bonnes intentions, mais où il y a trois pelés, un tondu, personne ne va y aller.
Alors, je voudrais revenir au journalisme. Les réseaux sociaux ont favorisé le développement d'un journalisme citoyen. Autrement dit, l'info n'est plus l'apanage des journalistes professionnels. Vous le disiez tout à l'heure. Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est dangereux, finalement, pour la démocratie ?
Écoutez, je pense, enfin, honnêtement, c'est pas à moi à répondre à cette question. Moi, je suis comme vous, je me la pose, cette question. Je pense que c'est un constat qu'on est obligé de faire. Est-ce que vraiment tout le monde est devenu journaliste? Je crois pas. Au contraire. C'est très bien pour le, c'est un petit peu une crise pour l'information, pour le journalisme. Mais c'est, je pense, une crise positive.
C'est-à-dire. Ça oblige à se remettre en question.
Exactement. Ça oblige à se remettre en question. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la presse fait l'objet, et sans doute à cause un peu de tout ça, de beaucoup de griefs, enfin. Mais on est dans une période de bouillonnement où il va en ressortir quelque chose de positif. Enfin, inévitablement. Tout le monde n'est pas journaliste, et au contraire, les gens comprennent, c'est un peu ce qui est ressorti après l'affaire Cambridge Analytica, c'est peut-être une, justement aux États-Unis, je crois qu'il y avait des études qui montraient ça, que les gens au contraire retournaient vers la presse parce que ils se rendaient compte de l'importance d'avoir des professionnels de l'information. Avec toutes les complications qu'il peut y avoir, puisque maintenant, n'importe qui peut être un média, et même un média sérieux, entre guillemets.
Quand vous écrivez que le temps de la captivité médiatique est révolu, qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Ben, c'est un peu ça, c'est-à-dire que on était un peu prisonnier de quelques médias dans chaque pays, et aujourd'hui, eh bien, les réseaux sociaux ont tout cassé et on mélange tout. Les gens s'informent tous à la fois par une espèce de gloubi-boulga qui est fait de certaines de véritables informations produites par des vrais médias, d'autres produites par des vrais médias mais très très orientés, très militants, qui ont des moyens phénoménaux parce que ça coûte pas cher, et puis des vrais faux médias. On peut citer un exemple, il y a un site qui s'appelle Nordpress, qui est un site parodique, qui se veut parodique sur Internet, et qui diffuse beaucoup de fausses nouvelles, notamment sur Facebook, et qui flirte, mais alors d'une manière très très gênante pour nous journalistes, entre le vrai et le faux, et entre l'ironique, l'humoristique et l'abus de confiance. C'est-à-dire que parfois, les informations sont vraiment drôles et on a envie de les partager, on sait qu'elles sont fausses, et à d'autres moments, eh bien, on ne sait pas bien, et beaucoup de gens sont tombés dans le panneau. Beaucoup d'hommes politiques ont repris des informations de Nordpress pensant que c'était de véritables informations. C'est quand même la preuve que tout ça est très 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 mouvant.
Est-ce que les médias traditionnels sont appelés à disparaître sous leur forme actuelle, en tout cas, selon vous ?
Moi, j'ai pas l'impression. Hein. Au contraire, les médias traditionnels sont en train de se remettre en question et de resserrer les boulons et de se reposer des questions. Alors, j'appartiens à France Info, qui dépend de Radio France, et France Info a aujourd'hui, par exemple, mis en place des process pour la fabrication de l'information, la vérification de l'information, qui sont de très haut niveau. C'est un peu comme si on était passé de l'âge de l'artisanat à l'âge de l'industrie. Réalisation, mais dans le bon sens du terme, avec des tas de process complexes pour fabriquer de la bonne information pour le public et pour le respect du public. Donc ça, c'est quand même une conséquence positive de la crise qu'on a l'impression de vivre aujourd'hui.
Merci Jérôme Colombin. Faut-il quitter Facebook, Twitter, YouTube, Instagram ? C'est le titre de votre livre, disponible sur Amazon.
Merci beaucoup.
http://atelier.rfi.fr
La France fabrique des armes. La France exporte ses armes, principalement au Moyen-Orient. François Hollande et son gouvernement, plus que tout autre avant lui, a vendu des armes.
Vous avez été capable, grâce à vos performances, de nous permettre d'avoir des contrats à l'exportation qui n'ont jamais été aussi élevés ces dernières années.
La France est même devenue le troisième exportateur mondial d'armement. Pourtant, de ce fleuron industriel, de ses usines, de ses 165 000 salariés, Nous ne savons rien.
Je dirais que c'est une industrie qui n'a pas besoin que les médias s'intéressent à elle. Donc, en l'occurrence, on essaye d'éviter de parler, de trop parler de ce qu'on fait.
Est-il possible de concilier la promotion de cette industrie et les valeurs humanistes de la France? À qui est-on prêt à vendre pour préserver ces emplois-là? Pourquoi est-ce à ce point un angle mort du débat public?
Tout est couvert par le secret défense. Tout. Absolument tout.
Nous sommes partis à la découverte de cette industrie taboue.
Anne Poiret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, réalisatrice, prix Albert Londres 2007. On vient d'entendre les premières minutes de votre nouveau documentaire, Mon pays fabrique des armes, qui sera diffusé le 23 octobre mardi prochain sur France 5. Combien de temps a duré votre enquête édifiante sur cette industrie taboue qu'est l'armement?
Ça fait à peu près 2 ans et demi, moi, que je m'intéresse à cette question et on a vraiment enquêté à temps plein pendant une année.
Est-ce que ça a été compliqué? Parce que j'imagine que c'est un monde qui n'aime pas beaucoup les micros ni les caméras.
Ça a été très compliqué parce qu'en effet, les gens ne parlent pas dans les industries, n'ouvrent pas leurs portes aux caméras. C'est effectivement particulièrement compliqué de pouvoir filmer, en fait. C'est-à-dire que avoir des entretiens, c'est une chose, mais pouvoir faire rentrer les caméras dans des usines, c'est extrêmement compliqué. La surprise, ça on le savait, France 5 avait accepté ce défi un peu de raconter en 70 minutes une industrie qui nous ouvrirait pas, a priori, nous ouvrirait pas ses portes. Je m'attendais pas à ce point l'appareil d'État soit fermé. C'est-à-dire que l'administration Hollande et l'administration actuelle, à ce point, ne souhaitent pas nous accorder une interview et répondre à nos questions.
Vous assumez d'avoir recours aux caméras cachées. C'est le seul moyen, selon vous, d'avoir des infos, des témoignages?
Au départ, il ne s'agissait pas d'une investigation. Il s'agissait d'une espèce de road movie un peu, justement, découverte. Et effectivement, à un moment donné, quand on se retrouve à ce point face à un mur, il n'y a pas tellement d'autres façons de pouvoir rendre compte de la réalité des choses.
Alors, dans votre documentaire, comme dans beaucoup d'autres maintenant, les conversations sont reconstituées, c'est indiqué à l'écran. Pourquoi? Les voix masquées, déformées, techniquement, ce n'est plus une protection suffisante?
Ça ne nous semblait plus une protection suffisante, en effet, pour protéger nos sources. On sait maintenant qu'il y a des façons de revenir sur les techniques de brouillage de voix, donc on n'a pas voulu exposer nos sources à ça.
Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une sorte de road movie en France. On découvre des petites communes, des petits villages où sont installées les usines qui fabriquent des armes. Et vos interlocuteurs ne s'en cachent pas, hein, mais en même temps, on les sent extrêmement gênés.
Ben c'est très compliqué, évidemment. Je pense que moi, mon souci, ma curiosité première était d'aller rencontrer les gens qui travaillent dans l'armement, puisque souvent les communiqués de presse de toutes les grandes signatures de contrats à l'exportation mettent en avant ces emplois. C'est-à-dire qu'on nous dit toujours, il y a 165 000 emplois. Aujourd'hui, on parle de 200 000 emplois qui bénéficieront de ces contrats et cette industrie représente ces personnes. Et moi, ma première interrogation était de me dire, je ne sais pas qui sont ces gens. Je ne sais pas où ils sont en France. Je voudrais savoir ce qu'ils pensent. Et donc, effectivement, nous, on a choisi d'aller dans plusieurs... on a choisi un certain nombre de régions qui nous paraissaient être exemplaires de cette industrie et on est allé les rencontrer. Et en effet, c'est à Bourges, par exemple, dans la région de Bourges, il n'y a pas d'autres industries. Donc, c'est aussi une façon de mesurer la précarité de ces communes, la précarité dans les régions, le manque d'emploi, les choix industriels qui ont été faits, la désindustrialisation. Et donc, évidemment, on ne peut pas juger ça. On ne peut pas juger les choix de ces gens.
D'ailleurs, certains sont assez touchants, comme ce syndicaliste CGT que vous avez rencontré.
Oui, bien sûr, mais on les comprend.
Il vous dit « je vis avec ça ».
Oui, voilà, il dit qu'il pense effectivement de temps en temps à ces bombes qui tombent sur des enfants et qu'il a peut-être participé à la fabrication de ces missiles. Et évidemment, c'est très compliqué de vivre avec ça. Donc, on se rend compte d'abord, il y a quand même des gens qui veulent pas parler parce qu'ils ont peur d'être virés. Donc, en effet, on s'est plutôt adressé à des gens qui étaient syndiqués ou alors à des élus parce que, en effet, beaucoup de gens effectivement bénéficient des impôts locaux, de la sécurité de ces emplois. Ce sont des bons employeurs, ils traitent bien. Voilà, c'est... Mais évidemment, alors beaucoup de gens, effectivement, soit ne veulent pas répondre aux questions par peur d'être virés, ou alors parce que parfois, ils ne se posent pas ces questions. Donc parfois c'est... On s'aperçoit, par exemple, chez Dassault, à Mérignac, on a eu plus de facilité à rencontrer des gens qui étaient à la retraite et qui commencent à se poser ces questions-là maintenant qu'ils ne sont plus dans le quotidien en fait, de la fabrication.
Alors, vous le dites avec ironie, les armes que la France vend, étrangement, servent à faire la guerre. Un télescopage que les industriels, comme les politiques, n'assument pas, finalement.
Oui, il y a beaucoup, il y a toute une espèce de... Par exemple, on ne parle pas des industries d'armement en France. On parle au mieux des industries de défense, au mieux de la BITD, de la base industrielle technologique et technologique de défense. Donc il y a toute une espèce de façon de contourner. Par exemple, RTD, Renault Truck Défense, m'avait expliqué qu'il ne faisait pas d'armement, mais de la mobilité renforcée. Ce sont des véhicules ils fabriquent le Sherpa ou le MIS, ce sont des véhicules de l'armée terrestre. Il y a une façon de contourner en fait les choses et effectivement de ne pas assumer ou de ne pas vouloir effectivement vraiment discuter et débattre de ces questions.
On va écouter justement le Pierre Balmer, qui est le PDG de CMN à Cherbourg. CMN fabrique des navires de guerre. Et lui, visiblement, il préfère faire l'autruche.
C'est pas neutre. Après, moi, j'ai pas d'avis personnel sur y a-t-il des bons, y a-t-il des méchants, qui a raison, qui a tort. C'est... Et puis, faut quand même dire une chose. Aujourd'hui, ce monde de l'armement est très très concurrentiel parce que il y a un gros potentiel.
Alors, la France vend des armes, c'est une chose, mais le problème, c'est à qui elle les vend, et c'est là que le bât blesse.
Oui, évidemment. Alors, Pierre Balmer, qui nous a reçus, qu'on vient d'entendre, il faut quand même lui rendre hommage parce que c'est le seul industriel que j'ai contacté qui m'a accepté dans ses usines tout de suite, en 3 jours, sans aucune restriction. Et finalement, au moins lui, on l'entend. C'est-à-dire qu'au moins lui, c'est compliqué. On comprend que son point de vue d'industriel est compliqué et qu'il pose des arbitrages sur des questions effectivement très complexes parce que lui, il vend qu'à des pays étrangers. Et l'un de ses principaux clients est l'Arabie Saoudite. Et effectivement, l'Arabie Saoudite est l'un des plus importants clients de la France. Pendant longtemps, ça a été notre principal client. Aujourd'hui, c'est le deuxième. Et effectivement, les clients, nos clients sont, en termes de livraison, notre premier client sur ces dernières années, c'est l'Égypte. Ensuite, il y a l'Arabie Saoudite. Dans nos principaux clients, il y a le Qatar.
L'Inde,
donc on a effectivement des clients qui sont pour certains en guerre, pour d'autres qui ont dans leur pays une façon de traiter l'opposition et de violer les droits de l'homme qui est avérée et critiquée et mise en cause et qui nous met
en porte-à-faux. Voilà, parce que le commerce des armes est régi par un traité. Il existe des règles internationales, européennes. Et donc, dans ce documentaire, vous tentez de démontrer que la France ne respecte pas ses engagements.
C'est tout le paradoxe des années Hollande. François Hollande a été le plus grand vendeur d'armes de la Ve République. Et dans le même temps, c'est sous sa présidence qu'a été ratifié le traité pour le commerce des armes, qui est la première tentative de réguler un peu ce marché et qui effectivement met des limites, notamment le fait qu'on ne puisse pas vendre des armes à des pays qui pourraient les utiliser pour commettre des crimes de guerre ou les retourner contre sa population. Alors, c'est des choses qui avaient déjà été posées dans une position commune européenne. C'est des choses qui sont aussi, nous dit-on, dans les critères que la France se met à elle-même. Simplement, on ne peut pas savoir comment sont faits ces arbitrages puisque ces critères sont classés confidentiel défense ou secret défense. Et donc, c'est toute la problématique. C'est-à-dire que la France nous dit, ne vous inquiétez pas, nous sommes les plus rigoureux, nous respectons ces critères. Sauf que, concrètement, on ne peut pas en avoir la preuve puisque ces décisions et ces discussions sont classifiées.
Alors, ça donne lieu, cette position un peu pleine de paradoxes, ça donne lieu à des échanges assez étonnants, comme au Parlement européen. On écoute l'eurodéputé Michel Alliot-Marie.
Contrôler strictement les exportations d'armement, oui, c'est une exigence juridique, morale, éthique, évidente. Mais refuser des exportations au nom d'une utopie pacifiste, c'est ouvrir la voie à d'autres qui n'auront pas les mêmes scrupules que nous.
Voilà, Michel Alliot-Marie qui s'est fait immédiatement recadrer, si j'ose dire, par les parlementaires européens, puisqu'elle tentait de s'opposer à une résolution du Parlement, fidèle à la position commune de l'UE, dont fait partie la France.
Oui, et la France est souvent critiquée dans cette enceinte. Quand vous discutez en off, hein, puisqu'il ne parle pas avec des gens qui ont pu prendre ces décisions à cette époque, ils vous disent que ça compte pas, le Parlement européen ne compte pas pour eux. Ils ne prennent pas ça en compte. Donc évidemment, voilà. Et c'est vrai que François Hollande, dans un de ses derniers discours de président, il s'est rendu entre les deux tours dans l'usine de Bourges d'MBDA. Il a fait ce discours où il formalise presque cette espèce de théorie des ventes d'armes, où si c'est pas nous, c'est les autres.
Et il dit, c'est le rôle de la France de vendre des armes.
Voilà. Il y a des députés qui vous expliquent qu'il y a une éthique des ventes d'armes, qu'il y a, ça doit être un facteur de paix et que c'est une façon de propager la paix. Donc évidemment, c'est très paradoxal.
Alors vous parliez tout à l'heure de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui est engagée dans une guerre meurtrière au Yémen. Elle conduit la coalition arabe qui combat les rebelles houthis. Une guerre qui a fait quelque 10 000 morts, dont au moins 5 000 civils selon l'ONU. On va écouter Radia Al-Moutakawel qui, au nom de la société civile yéménite, interpelle les représentants des pays signataires du traité sur le commerce des armes dont on parlait tout à l'heure. C'est toujours extrait de votre documentaire, Anne Poiret.
Vous ne savez peut-être pas grand-chose des victimes civiles, de ce qui est en train d'arriver aux Yéménites, de l'horreur quotidienne de cette guerre. Malheureusement, beaucoup de Yéménites ont, eux, appris à connaître vos pays à travers les armes qui ont détruit leurs maisons et tué leurs familles. Il est choquant que 19 États qui ont signé ce traité, dont 3 qui l'ont ratifié, aient quand même décidé de vendre et de livrer des armes à l'Arabie Saoudite depuis que cette guerre a éclaté. J'appelle tous les États à cesser immédiatement de livrer toute arme susceptible d'être utilisée par les parties au conflit. Merci.
Anne, selon plusieurs ONG, la coalition arabe vise délibérément les civils au Yémen. Les ONG accusent donc Riyad de crimes de guerre, d'où la question capitale. Est-ce que les armes vendues par la France à l'Arabie Saoudite servent à commettre des crimes de guerre?
Eh bien, aujourd'hui, il n'y a pas de preuves explicites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Les ONG cherchent ces preuves. Ils ont ramené un certain nombre de photos du terrain, d'endroits où des bombardements de lieux, d'écoles, des crimes de guerre qu'ils avaient établis.
On voit un membre d'Amnesty aussi décortiquer les vidéos.
Voilà. Donc, ils cherchent cette preuve, en fait. Alors, on ne sait pas aujourd'hui si on trouvera des armes françaises, parce que les avions et les missiles qui sont achetés par l'Arabie Saoudite sont essentiellement anglaise et américaine. Quand on parle à l'équipe France, aux gens qui ont vendu ces armes pendant ces années Hollande, eux ont l'impression d'avoir mal vendu à l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui devenu plus compliqué, plus concurrentiel de leur vendre des armes. Et il y a un certain nombre de chasses gardées, c'est-à-dire qu'on ne vendra pas de Rafale à l'Arabie Saoudite et un certain nombre de missiles non plus. En revanche, on leur vend des pods, c'est-à-dire que c'est ça qui sert à viser. Il y a probablement des munitions qui continuent à leur être vendues, moi c'est des informations qu'on m'a rapportées.
Et on voit les gens de Human Rights Watch donc sur le terrain collecter dans les débris des ruines d'immeubles ou de maisons, collecter des armes, des fragments de munitions.
Les gens du Quai d'Orsay qui sont... Il y a un certain nombre de gens qui sont très conscients de ça et qui sont très inquiets de voir ces preuves émerger, qui sont très conscients de ce que ça veut dire de retrouver ces preuves-là, des infractions qui sont commises, effectivement, selon eux, des traités qu'on a signés. Ce qu'on raconte dans le documentaire, c'est que notamment au moment où Jean-Marc Ayrault est ministre des Affaires étrangères, lui-même a tenté de s'opposer à des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, puisque son ministère est un ministère décisionnaire en siège, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont un vote, ils ont une voix délibérative. Et il n'a pas eu gain de cause, c'est-à-dire que c'est passé au-dessus de lui. Et François Hollande aurait décidé, selon nos sources, d'accorder ses licences. Ça ne veut pas dire que les ventes se soient faites. Une licence, c'est-à-dire qu'on permet à l'industriel de continuer le processus de vente. Donc on ne sait pas si ces ventes ont été finalisées. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que, encore une fois, quand on parle aux gens de l'équipe France, eux, ils ont des regrets par rapport à cette période. C'est-à-dire qu'ils trouvent qu'ils n'ont pas bien vendu. Il y a une façon de minimiser, c'est-à-dire que pour beaucoup d'industriels, l'Arabie Saoudite n'est plus un très bon client. On n'arrive pas bien à leur vendre. C'est pas qu'on ne souhaite plus leur vendre pour des questions morales, éthiques ou légales, puisque théoriquement, on ne devrait pas avoir le droit de le faire pour être en accord avec ce traité. C'est parce qu'on n'y arrive pas.
Il y a un autre client pas très recommandable, c'est l'Égypte du maréchal Al-Sissi, avec lequel le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, entretient des rapports très cordiaux. La France a vendu en 3 ans pour 7 milliards d'euros d'armement à l'Égypte. Et une source militaire vous parle d'hypocrisie incroyable. Les armes vendues à l'Égypte ne servent pas à lutter contre le terrorisme, comme l'affirme Paris, mais à réprimer les opposants, quels qu'ils soient d'ailleurs.
Alors cette source explique effectivement la seule logique qui a primé sous François Hollande et sous
Le Drian.
Avec Le Drian, c'est une logique industrielle. C'est-à-dire qu'ils ont fait le pari pour que leur loi de programmation militaire, à un certain moment, puisse s'équilibrer, qu'il fallait vendre, il fallait réussir à vendre le Rafale à tout prix. Et que cette décision industrielle, pour un certain nombre de gens dans l'appareil d'État, et notamment des militaires, ça les heurte terriblement parce qu'ils ont l'impression que c'est un court-termisme extrêmement dangereux, que c'est fait sans mesurer les implications que ça a, que ce que vendre des armes, c'est aussi des partenariats très longs, donc ce sont des alliances, et que c'est irresponsable de vendre à ce point à une personne comme Sissi. C'est pas dans le documentaire, parce que tous ces gens n'ont pas voulu parler officiellement, mais un membre de l'équipe France m'a raconté que oui, Al-Sissi, c'est un mégalo, c'est un dictateur un peu fou, mais voilà, on pensait qu'il n'avait pas les moyens de payer. Ah, finalement, il a eu les moyens de payer, donc super, on y est allé. C'est-à-dire qu'en conscience, ils ont décidé pour que ça rentre dans la loi de programmation militaire et que, voilà, de vendre à quelqu'un dont eux-mêmes trouvaient que c'était un dictateur mégalomane.
Alors, on va écouter un autre extrait de votre documentaire. Vous avez rencontré Mohamed Lofti, c'est le directeur de la Commission égyptienne des droits de l'homme.
La marque de fabrique du régime Al-Sissi, ce sont les disparitions de forcés. C'est ce qui fait peur aux gens. Si ça ne dérange pas le régime français ou l'État français d'être partenaire avec un régime qui commet un crime contre l'humanité, il n'y a pas beaucoup à attendre de la France. Fermer les yeux devant de telles violations emmène et augmente les chances de radicalisation, d'extrémisme, de violence et de terrorisme. Et c'est notre ennemi commun qu'il faut combattre. Et pour le combattre efficacement, et on combat le terrorisme à travers la justice et non pas avec de grands bateaux militaires.
Anne Poiret, on apprend dans votre documentaire que des sociétés françaises vendent des armes de surveillance, d'interception à l'Égypte. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que l'une de ces sociétés, Nexa Technologies, appartient à d'anciens membres d'Amesis, une société qui avait fait l'objet, enfin qui fait toujours l'objet d'ailleurs, d'une enquête judiciaire pour complicité d'actes de torture en Libye. C'est étonnant, vous vous attendiez à faire cette découverte ?
Non, alors c'est un article qui est une information qui est sortie dans Télérama. Olivier Tesquet avait sorti cette information pendant qu'on travaillait à ce film. Et effectivement, c'est complètement incroyable parce que cette société, ces gens qui sont aujourd'hui témoins assistés dans cette enquête pour le crime de guerre se retrouvent à nouveau impliqués. On les retrouve à nouveau en Égypte. Alors eux, leur point de vue, c'est de dire en Libye, on y est allé avec la bénédiction de la DGSE, on n'était pas les seuls. Toute l'industrie française était retournée vendre des armes à Kadhafi. L'embargo avait été levé et les grands industriels étaient tous sur place. Donc pourquoi nous ? Pourquoi nous ? C'est après nous qu'on en a. Alors évidemment, comme ces contrats à l'époque n'étaient pas classifié justement, ça a été beaucoup plus facile pour la justice. En tout cas, ça a été possible de travailler sur cette société. Et effectivement, quand les Émirats, puisque ce sont les Émirats qui ont payé pour ce contrat à l'Égypte, ils se sont dit on va faire les choses bien parce que cette fois-ci on veut pas que la France nous dise on n'était pas au courant. Donc on fait cette demande officiellement. Alors c'est pas à la CIEMJ, c'est une autre commission qui s'occupe des biens du bulgage parce qu'effectivement entre temps, à cause de ce scandale, les choses avaient été réformées. Et cette commission leur a répondu. Alors, a fait une réponse de non-soumis. C'est-à-dire que c'est une façon extrêmement ambiguë de ne pas répondre. Mais ce qu'on leur aurait dit, ce qu'un salarié m'a raconté, c'est qu'on leur aurait répondu qu'ils pouvaient y aller, qu'on ne leur interdisait pas de vendre ces technologies à l'Égypte. Qu'on ne leur interdisait pas, qu'on ne les forçait pas, mais qu'on ne les leur interdisait pas.
Alors vous revenez aussi sur deux affaires marquantes, les frégates de Taïwan et l'attentat de Karachi, attentat qui a coûté la vie à 11 Français qui fabriquaient là-bas des sous-marins vendus par la France au Pakistan, deux affaires de contrats, de rétrocommissions, de morts inexpliquées et qui impliquent des politiques. Alors le juge Van Ruymbeek n'a pas pu commenter pour votre documentaire l'affaire de Karachi parce que 6 protagonistes en France attendent leur procès. En revanche, il a dû jeter l'éponge dans l'affaire des frégates de Taïwan et il ne cache pas son amertume.
Le problème de la justice, c'est que dans ces dossiers-là, elle n'a pas accès aux informations qui lui sont nécessaires pour déterminer les bénéficiaires des commissions. Lorsque j'ai fait pratiquer une perquisition au siège de la société française concernée, il y avait des dossiers qui concernaient cette affaire-là et j'ai juste pas eu le droit d'y toucher. Voilà. J'ai entendu, par exemple, dans l'affaire de Taïwan, des dirigeants de l'entreprise qui me disaient « on n'a pas le droit de vous répondre ». On ne vous répondra pas. Parce que nous n'avons pas le droit de le faire, secret défense. On a des consignes, on doit pas répondre. Donc vous ne pouvez pas saisir de documents, vous ne pouvez pas faire des auditions, mais pourquoi vous versez à tel moment, pourquoi ? Et là, le juge peut se trouver en porte-à-faux, et de toute façon, il n'aura pas le dernier mot. Parce qu'il faut bien comprendre que s'il se heurte, s'il trouve des documents classifiés secret défense, il n'a pas le droit d'en prendre connaissance. Il doit demander l'autorisation au ministre. Il a une réponse. Alors, le ministre va consulter une commission. Il a une réponse, c'est oui, c'est non, pas une ligne de motifs. Parce que les motifs, si vous donnez des explications, vous rentrez déjà dans ce qui est couvert par le secret. Donc, vous n'avez aucune explication. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Mais vous ne savez pas pourquoi.
Le secret défense, mur infranchissable. L'une de vos sources au Quai d'Orsay ne dit pas autre chose.
Il y a une vraie crainte dans l'appareil d'État qu'on retrouve des armes françaises. Qu'il y a un élément de preuve, des photos notamment, sur le site d'un crime de guerre au Yémen. C'est quelque chose de très grave de violer un engagement international. Mais personne ne vous parlera en in. Il y a une omerta totale au sein de l'administration. Encore plus maintenant que Jean-Yves Le Drian est à la tête du Quai d'Orsay. Et le secret défense couvre tout. C'est très puissant. Il n'y a qu'un scandale qui ferait réagir les politiques.
Anne Poiret, vous êtes d'accord avec ce que dit ce diplomate? Il faudrait un scandale que la France soit menacée par la justice internationale de complicité de crimes de guerre pour que les choses bougent, pour que les choses changent?
Oui, probablement. Je doute que la justice internationale s'en mêle. Peut-être qu'il y aura une procédure en France. Un certain nombre d'ONG y travaillent, en tout cas. Effectivement, ces preuves de ces photos, notamment de munitions françaises sur le site d'un crime de guerre, c'est quelque chose qui fait peur en Quai d'Orsay. Ça les inquiète. Donc oui, peut-être que les choses avanceront comme ça. Il y a un certain nombre de choses qui évoluent à l'Assemblée nationale. Il y a un député, depuis que nous avons terminé ce tournage, il y a un député d'En Marche qui demande depuis le mois d'avril une commission d'enquête qui pour l'instant se heurte à une fin de non-recevoir pour justement se poser exactement ces questions, c'est-à-dire est-ce que nous avons des armes au Yémen vendues par la France, est-ce que nous respectons les traités que nous avons signés et comment peut-on apporter un petit peu plus de transparence sur ces marchés, à ces ventes d'armes.
Parce que depuis l'accession à l'Élysée ou l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron, rien n'a changé.
Aujourd'hui, rien n'a changé.
Alors, on confirme, c'est un bon sujet d'enquête. Mon pays fabrique des armes. Un documentaire à ne pas manquer le 23 octobre, mardi prochain, donc sur France 5, dans le cadre d'une soirée débat Le Monde en Face. Merci beaucoup, Anne Poiret.
Merci à vous.
Je signale aussi que vous allez publier un livre sur le même sujet, mais enrichi. Ça devrait paraître en avril prochain aux éditions Les Arènes. Merci beaucoup.
Merci.
L'atelier des médias, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez réécouter l'émission en podcast. Au micro, Chantal Laureau, à la réalisation Simon De Creuse. En coulisses, Camille Sarrazin, Léo Caravagna et Camille Deloche. La semaine prochaine, rediffusion de l'épisode 2 des Amours Connectés. Bon week-end.
On s'est séparés une première fois. Et là, je me suis dit qu'effectivement, il y avait un problème. Et en faisant quelques recherches sur Internet, je me suis rendu compte qu'il avait en fait installé un logiciel espion sur mon ordinateur. Et donc, il voyait la moindre lettre, le moindre espace, le moindre mouvement sur mon ordinateur.
RFI.